Chapitre 1 La promesse du retour du Seigneur. Premièrement, nous avons vu que la parole se sert principalement de deux images pour exprimer l'union étroite et indissoluble existant entre Christ et l'Église. Petit 1, un corps dont Christ est la tête. Petit 2, l'épouse et l'époux. Ces deux images impliquent le fait que notre place en tant que racheté de Christ et d'être là où il se trouve lui-même, c'est-à-dire dans le ciel. Il est descendu ici-bas, jadis, dans un corps semblable au nôtre, et a pris notre place sous le jugement de Dieu contre le péché.
Ésaïe 53, versets 4 et 5. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.
Il nous a rachetés par son sang.
1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été achetés à prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps. C'est pourquoi il désire nous avoir auprès de lui dans sa gloire. Ce désir de son cœur, il l'a exprimé à ses disciples, comme nous l'avons vu en leur promettant qu'il reviendrait et les prendrait auprès de lui. Jean 14, versets 2 à 5. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin?
Il le réitère dans sa prière de Jean 17, verset 24.
Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Car tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Cette prière ne concerne pas seulement les disciples qui l'entendaient, mais tous les rachetés, ainsi que le Seigneur le déclare lui-même.
Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leurs paroles, verset 20.
Ce vœu du Seigneur d'avoir les siens dans sa gloire s'applique donc à nous aussi. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus grand que cela? Le Seigneur veut que nous soyons auprès de lui et que nous partagions sa gloire. Tel est le dernier souhait qu'il a exprimé avant de quitter les siens, et nous pouvons être certains que Dieu l'accomplira. Si nous demeurons par la foi dans une étroite communion avec lui, nous jouissons dès ici-bas de cette glorieuse perspective, ainsi que l'écrivait l'apôtre Paul aux Éphésiens.
Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, Éphésiens 2, verset 6.
Bientôt, cependant, nous n'y serons plus seulement en lui, mais avec lui, glorieuse espérance. Deuxièmement, afin que la promesse puisse s'accomplir, il fallait qu'il aille nous préparer une place, non que la place dût être préparée comme telle, mais il devait nous ouvrir le chemin du ciel par sa mort expiatoire à la croix, sa résurrection et son assomption. En effet, l'homme naturel ne pouvait aucunement pénétrer au ciel. Or, Christ y est entré après sa résurrection, dans son corps d'homme, et non point seulement en esprit, comme il était avant de venir sur la terre. Et c'est dans son corps d'homme qu'il est assis maintenant à la droite du Père, et c'est grâce à ce fait que l'accès du ciel est ouvert à tous ceux qui croient en lui. C'est ainsi qu'il nous a préparé une place dans la maison de son Père. C'est comme homme que les disciples l'ont vu jadis monter au ciel, et c'est comme homme qu'il est assis dès lors à la droite du Père. Jean le voit apparaître dans son humanité.
Apocalypse 1, verset 13. Au milieu des sept lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Et Apocalypse 19, verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable, et il juge et combat en justice.
Le Seigneur aurait-il pu dire alors, s'il n'était qu'un esprit,
« J'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Apocalypse 1, verset 18. Pourrait-il, s'il n'était encore un homme, porter les marques des blessures qu'il reçut sur la terre? Certes non. Apocalypse 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Zacharie 12, verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né.
De même que les disciples l'ont vu monter au ciel dans son corps d'homme, ainsi il reviendra, comme les deux anges le déclarèrent, confirmant sa promesse.
Ce Jésus, qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Acte 1, verset 11.
Sans doute sera-t-il revêtu de la gloire du ciel lorsqu'il reviendra. Heureuse assurance, Jésus, le même que celui qui a été ici-bas, reviendra pour nous prendre auprès de lui, dans la maison de son Père. Troisièmement, nous retrouvons cette grande et glorieuse promesse dans de nombreux passages de l'Écriture. Il vaut la peine d'en citer quelques-uns qui fortifieront notre foi et réjouiront notre cœur.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. En quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps, par diverses tentations ou épreuves, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez. Et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi le salut des âmes. Espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, versets 3 à 9 et 13. Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. La foi et la connaissance de la vérité dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Tite 1, versets 1 et 2. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, versets 11 à 13. Il nous sauva, selon sa propre miséricorde, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Tite 3, versets 5 à 7. Notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose. Philippiens 3, versets 20 et 21. Or, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et notre Dieu et Père, nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, de Thessaloniciens 2, verset 16. Vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel, Éphésiens 4, verset 4.
Quatrièmement, telle est la part des rachetés. Veillons donc à ce que cette glorieuse espérance ne soit pas amoindrie et, pour finir, complètement détruite par l'attrait des choses de la terre. Ce n'est point sans raison que la parole nous exhorte à demeurer dans la foi, fondée et ferme, et à ne pas nous laisser détourner de l'espérance de l'Évangile.
Colossiens 1, verset 23. Si du moins vous demeurez dans la foi, fondée et ferme, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez ouï, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur.
Nous trouvons des avertissements semblables dans l'Épître aux Hébreux.
Nous sommes sa maison. Si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Hébreux 3, verset 6. Mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, hérite ce qui avait été promis. Hébreux 6, versets 11 et 12.
Toute la part du chrétien est constituée par cette espérance. Il ne possède rien d'autre dans le monde. Et cependant, quelle richesse! Car cette espérance, c'est Christ lui-même, selon le mot de l'apôtre Paul écrivant à Timothée.
1 Timothée 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de notre Dieu Sauveur et du Christ Jésus, notre espérance.
Dieu, lui aussi, est appelé le Dieu d'espérance.
Or, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. Romains 15, verset 13.
Abonder en espérance, c'est être si rempli de la certitude du prochain retour de Christ que notre vie quotidienne en devienne la vivante et rayonnante expression. Puisse le souhait que l'apôtre adressait à ses bien-aimés de Rome se réaliser pleinement pour chacun de nous, à la gloire du nom de Jésus. Chapitre 1. La promesse du retour du Seigneur. Premièrement, nous avons vu que la parole se sert principalement de deux images pour exprimer l'union étroite et indissoluble existant entre Christ et l'Église. Petit 1, un corps dont Christ est la tête. Petit 2, l'épouse et l'époux. Ces deux images impliquent le fait que notre place en tant que racheté de Christ est d'être là où il se trouve lui-même, c'est-à-dire dans le ciel. Il est descendu ici-bas, jadis, dans un corps semblable au nôtre, et a pris notre place sous le jugement de Dieu contre le péché.
Ésaïe 53, versets 4 et 5. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.
Il nous a rachetés par son sang.
1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été achetés à prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Pierre 1, verset 18 à 20. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps. C'est pourquoi il désire nous avoir auprès de lui dans sa gloire. Ce désir de son cœur, il l'a exprimé à ses disciples, comme nous l'avons vu en leur promettant qu'il reviendrait et les prendrait auprès de lui. Jean 14, versets 2 à 5. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit. car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?
Il le réitère dans sa prière de Jean 17, verset 24.
Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Cette prière ne concerne pas seulement les disciples qui l'entendaient, mais tous les rachetés, ainsi que le Seigneur le déclare lui-même.
Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leurs paroles, verset 20.
Ce vœu du Seigneur d'avoir les siens dans sa gloire s'applique donc à nous aussi. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus grand que cela ? Le Seigneur veut que nous soyons auprès de lui et que nous partagions sa gloire. Tel est le dernier souhait qu'il a exprimé avant de quitter les siens, et nous pouvons être certains que Dieu l'accomplira. Si nous demeurons par la foi dans une étroite communion avec lui, nous jouissons dès ici-bas de cette glorieuse perspective, ainsi que l'écrivait l'apôtre Paul aux Éphésiens.
Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, Éphésiens 2, verset 6.
Bientôt, cependant, nous n'y serons plus seulement en lui, mais avec lui, glorieuse espérance. Deuxièmement, afin que la promesse puisse s'accomplir, il fallait qu'il aille nous préparer une place. Non que la place dût être préparée comme telle, mais il devait nous ouvrir le chemin du ciel par sa mort expiatoire à la croix, sa résurrection et son assomption. En effet, l'homme naturel ne pouvait aucunement pénétrer au ciel. Or, Christ y est entré après sa résurrection, dans son corps d'homme, et non point seulement en esprit, comme il était avant de venir sur la terre. Et c'est dans son corps d'homme qu'il est assis maintenant à la droite du Père, et c'est grâce à ce fait que l'accès du ciel est ouvert à tous ceux qui croient en lui. C'est ainsi qu'il nous a préparé une place dans la maison de son Père. C'est comme homme que les disciples l'ont vu jadis monter au ciel, et c'est comme homme qu'il est assis dès lors à la droite du Père. Jean le voit apparaître dans son humanité.
Apocalypse 1, verset 13. Au milieu des sept lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Et Apocalypse 19, verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable, et il juge et combat en justice.
Le Seigneur aurait-il pu dire alors, s'il n'était qu'un esprit,
« J'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Apocalypse 1, verset 18. Pourrait-il, s'il n'était encore un homme, porter les marques des blessures qu'il reçut sur la terre ? Certes non. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Zacharie 12, verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né.
De même que les disciples l'ont vu monter au ciel dans son corps d'homme, ainsi il reviendra, comme les deux anges le déclarèrent, confirmant sa promesse.
Ce Jésus, qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Acte 1, verset 11.
Sans doute sera-t-il revêtu de la gloire du ciel lorsqu'il reviendra. Heureuse assurance, Jésus, le même que celui qui a été ici-bas, reviendra pour nous prendre auprès de lui, dans la maison de son Père. Troisièmement, Nous retrouvons cette grande et glorieuse promesse dans de nombreux passages de l'Écriture. Il vaut la peine d'en citer quelques-uns qui fortifieront notre foi et réjouiront notre cœur.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. En quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps, par diverses tentations ou épreuves, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez. Et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi le salut des âmes. Espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, versets 3 à 9 et 13. Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. La foi et la connaissance de la vérité dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Tite 1, versets 1 et 2. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, versets 11 à 13. Il nous sauva, selon sa propre miséricorde, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Tite 3, versets 5 à 7. Notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose. Philippiens 3, versets 20 et 21. Or, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et notre Dieu et Père, nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce. De Thessaloniciens 2, verset 16. Vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Ephésiens 4, verset 4.
Quatrièmement, telle est la part des rachetés. Veillons donc à ce que cette glorieuse espérance ne soit pas amoindrie et, pour finir, complètement détruite par l'attrait des choses de la terre. Ce n'est point sans raison que la parole nous exhorte à demeurer dans la foi, fondés et fermes, et à ne pas nous laisser détourner de l'espérance de l'Évangile.
Colossiens 1, verset 23. Si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez ouï, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur.
Nous trouvons des avertissements semblables dans l'Épître aux Hébreux.
Nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Hébreux 3, verset 6. Mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui avait été promis. Hébreux 6, versets 11 et 12.
Toute la part du chrétien est constituée par cette espérance. Il ne possède rien d'autre dans le monde. Et cependant, quelle richesse! Car cette espérance, c'est Christ lui-même, selon le mot de l'apôtre Paul écrivant à Timothée,
1 Timothée 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de notre Dieu Sauveur et du Christ Jésus, notre espérance.
Dieu, lui aussi, est appelé le Dieu d'espérance.
Or, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit-Saint, Romains 15, verset 13.
Abonder en espérance, c'est être si rempli de la certitude du prochain retour de Christ que notre vie quotidienne en devienne la vivante et rayonnante expression. Puisse le souhait que l'apôtre adressait à ses bien-aimés de Rome se réaliser pleinement pour chacun de nous, à la gloire du nom de Jésus. Chapitre 2. Quand le Seigneur reviendra-t-il? Premièrement, cette question est bien légitime. Lorsqu'on attend le retour d'un être cher, on aime en connaître par avance la date. Les disciples du Seigneur lui posèrent par deux fois la question, la première fois avant sa mort, la seconde après sa résurrection. Assis autour de lui sur la montagne des Oliviers, ils lui demandent en particulier,
« Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle ?» Matthieu 24, verset 3.
La seconde fois, les apôtres l'interrogent à ce sujet, après qu'il leur eut annoncé qu'il serait baptisé du Saint-Esprit dans peu de jours.
« Seigneur, disent-ils, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Acte 1, verset 6.
Par la suite, combien nombreux sont les rachetés qui, au travers de multiples épreuves, se sont écriés, « Seigneur, quand sera-ce que ces temps heureux, où luira ta face, comblerons nos vœux ?» À ces questions des disciples, le Seigneur répond,
« Quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul, Matthieu 24, verset 36.
Et
ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservé à sa propre autorité. » Acte 1, verset 7.
Ainsi, non seulement aucune date n'a été révélée, mais il ressort même des déclarations du Seigneur que nous ne devons aucunement chercher à en déterminer une, qu'il s'agisse de l'enlèvement des croyants ou de la venue de Christ en gloire. Lorsque les deux anges apparurent aux disciples après l'ascension du Seigneur, ils leur annoncèrent qu'il reviendrait de la même manière, mais ne leur dirent rien quant à la date de son retour. Deuxièmement, cependant, la parole ne laisse pas sans réponse cette question si importante. Le Seigneur déclare à l'assemblée de Philadelphie,
« Je viens bientôt », Apocalypse 3, verset 11.
Cette promesse est répétée trois fois dans le dernier chapitre de la Bible, et c'est même elle qui clôt le Saint-Livre. Bientôt, et voilà 19 siècles que ces paroles ont été prononcées. Qu'est-ce à dire? Certes, cela peut nous sembler paradoxal, à nous qui nous lassons bien vite d'attendre, et qui mesurons le temps à l'aune de notre vie si brève. Or la parole nous dit,
« Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimée, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » De Pierre 3, versets 8 et 9. De son côté, il n'y a donc que grâce et patience envers les pécheurs. D'une autre, il doit y avoir vigilance et persévérance dans l'attente de son retour. C'est précisément parce que le Seigneur sait combien facilement nous nous relâchons sur ce point qu'il tient secret le jour de sa venue. S'il avait annoncé à ses disciples qu'il devait s'écouler au moins 19 siècles avant cet événement, l'Église se serait certainement endormie encore plus vite qu'elle n'a fait. En effet, comment cette attente aurait-elle pu rester vivante et exercer une influence bénie sur les rachetés si ceux-ci avaient su, génération après génération, qu'ils ne reviendraient pas de leur vivant. Or, il désire que nous soyons toujours prêts. Le serions-nous si nous savions qu'il ne vient pas encore? N'est-ce point un fait connu que nous ne pouvons nous maintenir en état d'attente permanente que si nous sommes certains de l'imminence du retour de la personne attendue? Ainsi que quelqu'un l'a écrit, nous avons une telle tendance à la paresse et à l'inertie que nous avons toujours besoin d'être tenus en haleine. Hélas, tel est bien le cas, et, malgré les exhortations de la parole à être comme des esclaves qui attendent leur maître, les chrétiens perdirent bien vite de vue cette glorieuse espérance et s'endormirent peu de temps après le départ des apôtres. En effet, les écrits de leurs successeurs immédiats montrent que les regards des rachetés s'étaient détournés de Christ lui-même pour s'attacher à des hommes, oubliant en même temps la vérité du retour du Seigneur. Ainsi, la porte s'ouvrit à toutes sortes d'erreurs au sein de l'Église. Troisièmement,
c'est pourquoi, cher lecteur, il importe que nous attendions le Seigneur de façon réelle et vivante. Il n'y a point de meilleure protection contre l'influence du mal et le sommeil spirituel que cette attente constante et résolue de son retour, renforcée par la conviction que nous allons être introduits dans sa sainte et glorieuse présence.
Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur, 1 Jean 3, verset 3.
Tous les calculs visant à déterminer la date de la venue du Seigneur sont parfaitement vains et faux, puisque la parole ne contient aucune indication sur laquelle ces calculs pourraient s'appuyer. Les données bibliques concernant l'époque ou la durée de certains faits prophétiques se rapportent toutes exclusivement à Israël et non point à l'Église. Les calculs que l'on peut fonder sur elles permettent, non sans difficulté d'ailleurs, de fixer approximativement la chronologie des événements allant jusqu'à la naissance du Christ. Dès lors, toutes indications de temps font défaut, et ce n'est qu'en rapport avec les temps de la fin, durant lesquels Israël sera de nouveau appelé à rendre témoignage pour Dieu, que des chiffres nous sont donnés. En revanche, comme nous l'avons déjà vu, l'économie de la grâce, qui est celle de l'Église ici-bas, constitue une parenthèse dont la parole n'indique pas la durée. Cette période est dominée par un événement, le retour de Christ, et c'est cet événement, ou mieux cette personne, que nous avons à attendre chaque jour, sans nous livrer à de stériles calculs. Soyons prêts chaque jour, sachant que s'il ne vient pas aujourd'hui, demain sera pour nous un nouvel aujourd'hui. Cette attitude de vigilance et de soumission est de la plus grande importance pour le racheté à l'époque actuelle de la grâce. Pierre déclare, nous l'avons vu, que le Seigneur est patient parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance.
2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance.
Sa grâce souveraine prend patience et sauve tous ceux qui veulent bien accepter le salut gratuit qu'elle leur offre. Voudrions-nous en limiter la durée et fixer d'avance un terme précis à l'exercice de cette grâce, alors que le Seigneur lui-même use de patience, afin que tous viennent à la repentance? Le croyant, éclairé par la parole et le Saint-Esprit, s'abstient donc de tomber dans ce regrettable travers, ne voulant aucunement tenter de connaître ce que le Seigneur ne lui a point révélé, ni surtout fixer des limites à la grâce rédemptrice de Dieu. Quatrièmement, un passage de l'Épître aux Romains confirme que le Seigneur ne peut revenir avant que le dernier des élus ait été sauvé. Un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude,
ou la totalité,
des nations soit entrée,
c'est-à-dire sauvée.
Romains 11, verset 25. Tant que ce chiffre total n'est pas atteint, le temps de la grâce ne peut prendre fin et, par conséquent, le Seigneur use de patience. Mais sitôt que le dernier élu aura été sauvé, il ne retardera pas son retour d'un seul instant. Cependant, cette plénitude où, si l'on préfère ce total, ne nous est pas connu. Seul Dieu l'a établi.
Marc 13, verset 32. Mais quant à ce jour-là ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père.
Et même si nous le connaissions, nous ne pourrions le calculer, car nous serions bien incapables de déterminer le nombre des âmes sauvées au cours des siècles passés, sans parler des vivants. Parmi eux, nous en compterions peut-être qui n'ont pas la vie de Dieu, malgré une apparence de piété, telles les vierges folles qui possédaient bien des lampes, et point d'huile dans leur vaisseau. Ou bien refuserions-nous d'inclure dans notre statistique des rachetés que le Seigneur connaît comme étant à lui, mais dans le cœur desquels nous ne pouvons lire. Songeons, par exemple, aux résidus fidèles de Thyatire auxquels le Seigneur déclare
« Je ne vous impose pas d'autre charge, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. » Apocalypse 2, verset 24.
Pourtant, nous savons avec une entière certitude que le temps de la grâce touche à sa fin. En effet, nous assistons depuis quelques années à des événements qui sont autant de signes précurseurs de la venue prochaine de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Certes, et il convient d'y insister, la parole ne nous annonce aucun fait devant précéder ce jour bienheureux. Toutefois, les signes auxquels nous faisons allusion sont reliés si manifestement à des événements prophétiques qui se produiront après l'enlèvement des saints, que ceux-ci ne sauraient les ignorer. Il s'agit notamment du retour des Juifs en Palestine, du développement de l'esprit de l'Antichrist dans le monde et des efforts visant à unir les États en groupe préparant ceux qui se constitueront à la fin des temps. Mais, encore une fois, ces faits, si solennels soient-ils, ne nous permettent pas de fixer la date du retour de Christ. Qu'il nous suffise donc de savoir que Dieu a fixé cette date avec précision, et que si l'attente nous paraît longue, le délai en est fort bref. C'est pourquoi la parole insiste à plusieurs reprises sur l'imminence de la venue de Christ et nous exhorte à l'attendre à chaque instant.
Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4, verset 6. Encore très peu de temps, et celui qui vient, viendra. Et il ne tardera pas, Hébreux 10, verset 37. Vous aussi, usez de patience, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche, Jacques 5, verset 8. Mais la fin de toutes choses s'est approchée, 1 Pierre 4, verset 7. Petits enfants, c'est la dernière heure, 1 Jean 2, verset 18. Bienheureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche, Apocalypse 1, verset 3. Voici, je viens bientôt. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Le temps est proche. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt, Apocalypse 22, verset 7, 10 et 20.
Sommes-nous disposés à nous écrier avec sincérité, Amen, viens Seigneur Jésus? Attendons-nous réellement ce jour? Et le hâtons-nous par notre dévouement au service du Seigneur, de Pierre 3, verset 12.
Attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront.
Puisse la perspective de le voir bientôt nous consoler dans nos épreuves et stimuler notre foi et notre zèle pour lui, de manière que nous soyons prêts à l'accueillir quand il viendra. Chapitre 3. Comment le Seigneur reviendra-t-il? Premièrement, deux passages de la parole donnent une réponse précise et détaillée à cette question. Nous les citerons en entier, après quoi nous en examinerons les divers points. Le premier se trouve en 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53.
Voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous. Mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité.
Le second passage, 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, complète le premier.
Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles.
Remarquons tout d'abord que le Seigneur ne descendra pas jusque sur la terre et que ses rachetés seront enlevés à sa rencontre, tandis qu'il sera encore dans les airs. Cette rencontre du Seigneur avec les siens appartient à la sphère la plus intime de ses affections. Aucun étranger n'y pourra même jeter un regard. C'est également la raison pour laquelle le Seigneur lui-même viendra chercher les siens. Lui aussi désire si ardemment s'unir à son épouse qu'il ne veut confier à personne d'autre le soin de l'amener auprès de lui. Ces mots « lui-même » expriment toute la profondeur de son amour envers ceux qu'il a rachetés par son sang. Certes, ses anges sont constamment chargés de servir les saints, de les préserver des puissances ténébreuses de méchanceté et de les protéger des dangers qui les menacent. Cependant, lorsqu'il s'agira de recueillir les siens auprès de lui, le Seigneur ne recourra pas au service des anges. Il accomplira lui-même cet acte glorieux par lequel il achèvera les desseins de la grâce divine pour la joie suprême de son cœur. N'oublions pas, en effet, qu'il attend ce jour depuis des siècles, jour dans lequel il recueillera enfin le fruit du travail de son âme. Ainsi, l'allégresse de l'époux ne sera pas moindre que celle de l'épouse. Deuxièmement, un signal sera donné. Le Seigneur viendra, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu. Ces trois images désignant la voix du Seigneur lors de cet événement grandiose font ressortir la gloire céleste et la puissance divine avec lesquelles le Seigneur apparaîtra aux yeux des siens. Cette voix suffira à ressusciter les morts en Christ, à transmuer les vivants et à les enlever tous dans les nuées. Le cri de commandement exprime l'autorité et la toute-puissance de la voix du Fils de Dieu, Seigneur et Créateur de toutes choses. Cette même voix tira jadis l'univers du néant.
Car, lui, il a parlé et la chose a été. Il a commandé et elle s'est tenue là. Psaume 33, verset 9.
C'est ce cri encore qui arracha Lazare au tombeau.
Lazare, sors dehors. Jean 11, verset 43-44. Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors. Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller.
C'est enfin ce cri de commandement qui, un jour, fera retourner la première création au néant et y substituera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Telle est la voix puissante que Christ fera entendre lors de sa venue à ceux qui lui appartiennent. Tous répondront aussitôt à cet appel, même les rachetés qui dorment dans la tombe. Attirés, comme par un puissant aimant, tous les saints, morts et vivants, seront irrésistiblement enlevés de cette terre à la rencontre du Seigneur dans les airs. Une voix d'archange souligne seulement la puissance surhumaine de la voix du Seigneur. Cela ne signifie pas qu'un archange l'accompagnera. Relevons que la parole ne cite qu'un seul archange, Michel, Jude 8. La trompette de Dieu est une image exprimant le fait que le signal retentira partout, même dans les tombeaux, et sera perçu de tous ceux à qui il sera adressé. Cette trompette n'a rien de commun avec celles qui sont mentionnées dans l'Apocalypse et qui annoncent divers jugements, chapitre 8 à 11. Elle annonce, au contraire, la délivrance et la félicité des rachetés, la gloire du ciel partagée avec Christ. La dernière trompette, citée dans 1 Corinthiens 15, est une image empruntée aux usages militaires romains. Il y avait trois signaux successifs, annonçant l'ordre de départ. Le premier signifiait que les soldats devaient lever le camp, le deuxième qu'ils avaient à se mettre en ordre de marche, et, enfin, le troisième équivalait à notre actuel « en avant-marche ». Tous ces signaux étaient transmis par des sonneries de trompettes. Les deux premiers évoquent le souvenir des appels puissants qui furent adressés à la chrétienté au cours des siècles passés. Le premier signal fut celui qui retentit lorsque l'Évangile fut annoncé, invitant les hommes à sortir du camp du péché et à se convertir. Le deuxième coup de trompette fut l'annonce du retour prochain du Seigneur, signal qui retentit il y a près d'un siècle et demi et qui se fait entendre toujours plus clairement au sein de la chrétienté. Il ne manque plus que le dernier signal, la voix du Seigneur lui-même, appelant les siens à sa rencontre. Troisièmement, voyons maintenant ce qui se passera sur la terre lorsque cette voix se fera entendre. Il nous est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cela s'applique aussi bien au sein de l'Ancien Testament qu'à ceux de l'Église. En effet, la rédemption qui est dans le Christ Jésus s'étend à ces deux catégories de croyants.
Romains 3, versets 25 et 26. Le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents, dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus.
Le Seigneur lui-même a déclaré, « L'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. » Jean 5, verset 28-29. Les premiers participeront à la première résurrection qui aura lieu à la venue du Seigneur. Les seconds sortiront des tombeaux pour le jugement après le règne millénaire. Il est dit des premiers,
« Bienheureux et saints celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. Et ils régneront avec lui 1000 ans. » Apocalypse 20, verset 6.
Les Thessaloniciens attendaient le Seigneur avec une foi vivante. C'était même la caractéristique principale de leur témoignage.
1 Thessaloniciens 1, verset 9. « Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous, et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. »
Aussi furent-ils inquiets lorsqu'ils constatèrent que quelques-uns d'entre eux étaient retirés avant le retour de Christ, car ils pensaient que cet événement se produirait de leur temps déjà. Ce n'était point qu'ils fussent ébranlés dans leur attente, mais ils redoutaient que les croyants endormis ne participassent point à l'enlèvement de l'Église. Pour dissiper ces craintes, l'apôtre leur communiqua des révélations supplémentaires concernant le retour du Seigneur, en insistant spécialement sur la part qui prendraient les saints endormis. Il vaut donc la peine que nous nous arrêtions sur ce sujet si important. La nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit renouvelle l'esprit de notre entendement, Éphésiens 4, verset 23, c'est-à-dire notre âme et notre esprit, mais non point notre corps qui n'est sauvé qu'en espérance, Romains 8, verset 24.
Éphésiens 4, verset 23, être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. Romains 8, verset 24, « Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance, car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il ? »
Certes, la nouvelle naissance exerce une influence sanctifiante et bienfaisante sur notre vie physique, car le Saint-Esprit qui est en nous nous rend capable de résister au péché et d'avoir, à l'égard de toutes les choses de la vie présente, une conception entièrement nouvelle et conforme à la pensée du Seigneur. Néanmoins, notre corps n'est pas encore renouvelé, sinon il serait devenu semblable au corps de Christ après sa résurrection. Cette tente dans laquelle nous gémissons étant chargée, 2 Corinthiens 5, versets 2 à 4, appartient à la création déchue, psaume 51, verset 5, et se trouve de ce fait soumise à la condamnation prononcée contre le péché, la mort, Romains 6, verset 23.
2 Corinthiens 5, versets 2 à 4. Car aussi dans cette tente nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel, si toutefois, même en étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Car aussi nous qui sommes dans la tente, nous gémissons, étant chargés, non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Psaume 51, verset 5. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Romains 6, verset 23. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
C'est pourquoi nous demeurons toute notre vie exposés à la souffrance, à la maladie, à la mort. Nous sommes liés aux lois naturelles et aux nécessités de l'existence, tout comme les inconvertis. À nous aussi, enfants de Dieu, s'appliquent les mots de 1 Corinthiens 15, verset 50.
La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu.
Et
ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt, verset 36.
Notre maison terrestre doit être détruite. Aussi désirons-nous avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel, cet édifice de la part de Dieu, maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux.
2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Car aussi dans cette tente nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel, si toutefois, même en étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Car aussi nous qui sommes dans la tente nous gémissons, étant chargés, non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit.
Ainsi, la parole nous enseigne clairement que notre corps actuel doit disparaître avant que nous revêtions l'incorruptibilité et la gloire. Toutefois, la mort est pour l'enfant de Dieu tout autre que pour l'incrédule. Ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul affirme
« J'ai le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur. » Philippiens 1, verset 23.
Quand un croyant meurt, son corps est simplement endormi et son âme va en paradis. Luc 23, verset 43. Lieu béni où se trouve celui auquel il a cru.
Luc 23, verset 43. Jésus lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Il faut bien entendre, en effet, que le sommeil s'applique seulement au corps du chrétien décédé, et non point à son âme qui, elle, ne dort pas. Au contraire, elle se trouve dans un état de jouissance intense qui lui permet de percevoir ces choses ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul lorsqu'il fut ravi au troisième ciel.
2 Corinthiens 12, verset 4. Il a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer.
Après la mort, l'âme du racheté entre donc avec le Seigneur dans une communion infiniment plus élevée et bénie que durant sa vie terrestre. Elle jouit d'un bonheur sans mélange et d'une paix parfaite. C'est pourquoi la parole déclare que mourir est un gain et qu'être avec Christ est de beaucoup meilleur. C'est une entrée paisible dans le repos céleste auquel la gloire s'ajoutera à la venue du Seigneur. Plusieurs ont eu le privilège de jeter un regard à leur dernière heure sur le séjour heureux où ils allaient entrer. Tel fut en particulier le cas d'Étienne.
Acte 7, verset 56. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. »
La mort n'est donc pour le croyant qu'un état provisoire auquel succédera la résurrection d'entre les morts.
Philippiens 3, verset 11. Si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts.
C'est ce que l'apôtre Paul explique aux Thessaloniciens. Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. De même, tous ceux qui ont été rachetés par son sang et font ainsi partie de son corps seront ressuscités d'entre les morts. La voix puissante du Seigneur les fera sortir des tombeaux, et ils seront enlevés à sa rencontre en même temps que les vivants transmués. Quelle scène glorieuse se déroulera alors! Toutes les âmes des saints endormis recevront un corps nouveau, glorieux, éternel, préparé pour le ciel. La forme en sera relativement correspondante à celle du corps porté par chaque racheté durant sa vie terrestre. Nous nous reconnaîtrons mutuellement dans les liens de l'esprit, et nous serons ainsi capables de connaître même ceux que nous n'avons pas connus. Ce corps ne comportera toutefois aucun élément de l'ancien corps mortel et corruptible. Il sera délivré du péché, de la maladie, des infirmités et des imperfections qui caractérisent nos corps actuels. Il ne sera plus de sang et de chair, et par conséquent n'aura plus besoin de nourriture et de boisson, mais il sera semblable au corps du Seigneur après sa résurrection. Il aura de la chair et des os, Luc 24, verset 39, c'est-à-dire un aspect physique perceptible, mais pas de sang.
Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, touchez-moi, et voyez, car un esprit n'a pas de la chair et des os, comme vous voyez que j'ai.
En effet, le sang, comme l'indique l'interdiction de manger le sang en Lévitique 17, verset 10, est le support de la vie terrestre, matérielle, passagère, qui doit être constamment entretenue et renouvelée par les aliments, et est assujetti à la loi de la mort et de la corruption.
Lévitique 17, verset 10, « Et quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux aura mangé de quelque sang que ce soit, je mettrai ma face contre celui qui aura mangé du sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. »
Il n'en sera plus de même du nouveau corps. La vie qui l'animera ne sera plus d'essence matérielle, c'est-à-dire liée aux lois naturelles qui régissent la matière, mais spirituelle. C'est pourquoi la parole l'appelle un corps spirituel, 1 Corinthiens 15, 44, expression qui peut paraître paradoxale à nos intelligences limitées.
1 Corinthiens 15, 44, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y en a aussi un spirituel.
En effet, un corps est, selon notre conception, quelque chose de matériel, tandis qu'un esprit est immatériel. Et pourtant, il en sera bien ainsi, puisque Dieu nous le dit dans sa parole. En un mot, nous ne serons plus soumis à aucune des lois actuelles de la matière, de l'espace et du temps. Une note en bas de page. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait, après sa résurrection, manger, mais n'en avait aucunement besoin. De même, il apparaissait en des lieux divers et fort éloignés, sans ouvrir les portes, ou devenait brusquement invisible. Reprise de la lecture. Ce sera l'affranchissement total de la servitude de la corruption et la jouissance intégrale de la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Romains 8, verset 21. Dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Ce corps nouveau sera conféré non seulement aux morts en Christ au moment de leur résurrection, mais aussi aux croyants qui seront encore vivants lors du retour du Seigneur. Il n'y aura donc aucune différence entre ces deux groupes de rachetés. Les premiers recevront leur nouveau corps par la résurrection, les seconds par la transmutation de leur corps terrestre.
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, versets 51-53. Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Philippiens 3, versets 20 et 21.
Ainsi, sans passer par la mort, les croyants vivant sur la terre à ce moment-là seront changés ou transmués. Ils recevront donc un corps semblable à celui des ressuscités. Paul se range lui-même parmi ceux-là, car il attendait le Seigneur. Puisse-t-il en être de même de chaque racheté? Quatrièmement, fait impressionnant, tout cela s'opérera en un instant, en un clin d'œil. Bien que l'enlèvement des saints ne soit pas vu des incrédules, ils n'en seront pas moins bouleversés lorsqu'ils constateront la disparition des croyants. Une note en bas de page. L'ascension du Seigneur passa inaperçue pour le peuple tout entier. Il en fut de même de celle d'Enoch et d'Élie.
Genèse 5, verset 24. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. 2 Rois 2, versets 10 à 12.
Et il dit, « Tu as demandé une chose difficile.
Si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi, sinon cela ne sera pas. Et il arriva, comme ils allaient marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée le vit et s'écria, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Et il saisit ses vêtements et les déchira en deux pièces.
Le Seigneur, venant chercher les siens, est appelé l'étoile brillante du matin. Une étoile n'attire pas particulièrement l'attention et n'est vue que de ceux qui scrutent le ciel. Reprise de la lecture. Ils se rappelleront les avertissements que ceux-ci leur adressaient quant au retour du Seigneur, mais alors il sera trop tard. Trop tard, puissent ces mots terrifiants ne retentir un jour aux oreilles d'aucun de vous lecteurs. Déjà, le Seigneur adressait ici-bas un appel solennel à ses auditeurs.
Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu 7, versets 21 à 23.
Il ne suffit pas d'avoir été élevé par des parents chrétiens, d'avoir mangé et bu en présence du Seigneur, Luc 13, 26, d'avoir entendu ses enseignements, de l'honorer des lèvres avec un cœur éloigné de lui.
Luc 13, verset 26.
« Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. »
Au contraire, tout cela ne fait qu'aggraver la responsabilité, car à celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Prenons garde que nos lampes aient de l'huile et brillent jusqu'à l'heure où paraîtra l'époux, de peur que la porte ne soit fermée pour nous. Quel effroi remplira le cœur de ceux qui resteront dehors, d'autant plus qu'il est permis de penser que l'enlèvement des croyants provoquera une désorganisation générale des conditions de vie, et même de graves accidents. Comme les hommes cherchèrent jadis Enoch et Élie après leur enlèvement, il est probable qu'ils chercheront les croyants partout, mais ils ne les trouveront pas. En effet, ceux-ci seront pour toujours auprès du Seigneur, 1 Thessaloniciens 4:17, qui les introduira dans la gloire auprès du Père.
1 Thessaloniciens 4, verset 17.
Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés,
dira-t-il, le cœur débordant de joie, Hébreux 2, verset 13. ils lui seront semblables et le verront comme il est.
1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est.
À cet effet, ils ne seront pas seulement revêtus d'un corps immortel, mais d'une gloire céleste. Tout ce qui est mortel aujourd'hui étant alors absorbé par la vie.
2 Corinthiens 5, versets 1 à 4. Car nous savons que si notre maison terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de mains, éternelle, dans les cieux. Car aussi dans cette tente nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel. Si toutefois, même en étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus, car aussi nous qui sommes dans la tente nous gémissons, étant chargés, non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie.
Le Seigneur n'a-t-il pas déclaré dans sa dernière prière,
« Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. » Jean 17, verset 24.
Pour cela, nous devrons auparavant lui être fait semblable, aussi bien en ce qui concerne son apparence que la nature de son humanité, faute de quoi nous ne pourrions le voir. Note en bas de page, il n'est pas question des attributs divins, mais de la sainteté qui caractérise l'humanité de Christ. Reprise de la lecture.
Ésaïe 6, verset 5. Et je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car moi je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
C'est un fait infiniment glorieux devant lequel l'apôtre Jean déclare,
ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, 1 Jean 3, verset 2.
Mais la certitude que nous le verrons implique une autre certitude, savoir que nous jouirons durant l'éternité de la gloire de la maison du Père. C'est pourquoi nous pouvons nous écrier avec le même apôtre, « Voyez de quel amour le Père nous a fait don. » Joie ineffable, nous serons pour toujours avec le Seigneur et auprès du Père. Oui, le repos s'apprête, le combat va finir, levons en haut la tête, car Jésus va venir. C'est lui, le Fils du Père, le Sauveur éternel, qu'en traversant la terre, nous attendons du ciel. Déjà blanchit l'aurore, frères, réveillons-nous. Quelques instants encore, et nous verrons l'époux. Que notre âme bénie s'égaie en son Sauveur, et par l'esprit de vie, répétant « Viens, Seigneur !» Chapitre 4. Je te garderai de l'heure de l'épreuve. Premièrement, une question importante se pose. L'Église sera-t-elle enlevée avant les jugements décrits dans l'Apocalypse, ou devra-t-elle traverser la grande tribulation? Pour répondre à cette question, nous allons considérer un certain nombre de passages de l'Écriture sainte, lesquels montrent clairement que l'enlèvement des croyants à la rencontre du Seigneur doit nécessairement et sans aucun doute avoir lieu avant la grande tribulation. La venue du Seigneur constituera justement le prélude des événements qui se dérouleront durant les temps de la fin et précéderont l'établissement du règne millénaire. L'enlèvement de l'Église, manifestation de l'amour de Christ, doit être accompli avant les jugements apocalyptiques. En effet, le Seigneur mettra son épouse chérie à l'abri de ceux-ci, selon la promesse qu'il adresse à l'assemblée de Philadelphie.
« Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Apocalypse 3, verset 10.
L'original signifie bien « Je te garderai hors de l'heure de l'épreuve » et non point à travers l'heure de l'épreuve. Nous avons vu, dans un chapitre précédent, que Philadelphie est l'image de l'Église fidèle des derniers jours. C'est donc à celle-ci que s'adresse cette précieuse promesse. Certes, tous les rachetés du Seigneur seront enlevés à quelque milieu ecclésiastique qu'ils appartiennent. Deuxièmement, l'apôtre Paul écrit dans le même sens aux Thessaloniciens qui, par suite des tribulations qu'ils avaient à subir d'un monde ennemi, croyaient à tort que le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour du jugement, était déjà arrivé. Il leur annonce que le Seigneur leur donnera au contraire du repos en ce jour-là, 2 Thessaloniciens 1, versets 7 à 10.
De vous donner à vous qui subissez la tribulation du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa puissance en flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force, quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru.
En outre, nous lisons au deuxième chapitre de la même épître.
Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps, car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin, et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche. Versets 6 à 8.
Il ressort clairement de ce passage que l'Antéchrist, l'agent principal de la grande tribulation, ne peut être révélé avant que les saints aient été enlevés. Deux obstacles doivent être supprimés au préalable pour qu'ils puissent apparaître. Le premier est appelé « ce qui retient », le second « celui qui retient ». Ce qui retient, c'est le fait que l'Église est encore ici-bas, telle une digue qui retient le flux montant du mal jusqu'au jour où le Seigneur la recueillera auprès de lui. La puissance nécessaire à cet effet procède du Saint-Esprit qui habite en elle. Celui qui retient désigne précisément le Saint-Esprit qui, ayant perdu son tabernacle lorsque l'Église aura été enlevée, ne s'opposera plus à la ruée de l'erreur. Une note en bas de page. Bien que le Saint-Esprit ne soit plus présent sur la terre comme personne divine, il agira encore, notamment au sein d'Israël, durant la grande tribulation, pour l'amener à la conversion.
Voir Zacharie 12, verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. Ézéchiel 39, verset 29. Et je ne leur cacherai plus ma face, parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Ésaïe 59, versets 20 et 21. Et le Rédempteur viendra à Sion et vers ceux qui, en Jacob, reviennent de leur rébellion, dit l'Éternel. Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours.
De même, un grand nombre d'âmes d'entre les nations seront sauvées par la prédication de l'Évangile du Royaume.
Apocalypse 7, versets 9 et 14. Après ces choses je vis, et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation et tribu et peuple et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau.
ce qui ne serait pas possible sans l'opération de l'Esprit.
1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus, et que nul ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit Saint.
Il faut donc admettre qu'il poursuivra sur la terre un ministère, même après l'enlèvement de l'Église, comme il faisait du reste avant le jour de la Pentecôte, période durant laquelle des âmes naissaient de l'Esprit. Reprise de la lecture. Auparavant, l'Antichrist ne peut être manifesté, précieuse consolation pour les bien-aimés du Seigneur. Troisièmement, après l'enlèvement de l'Église, Dieu reprendra ses relations avec Israël et l'appellera de nouveau à rendre témoignage dans le monde comme étant son peuple. À cet effet, Dieu a prescrit une période de 7 ans au moins. Des 70 semaines d'années qui doivent se passer, selon Daniel 9, versets 24 à 27, jusqu'à l'établissement du règne du Messie, 69 seulement se sont écoulées, jusqu'à la première venue du Christ, tandis que la dernière semaine, la 70e, est encore à venir, tout comme les événements prophétiques qui la caractérisent et que décrit le verset 27.
Daniel 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Et sache et comprends. Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du Prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation, et il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soient versés sur la désolée.
Or, cette dernière semaine ne peut commencer qu'après l'enlèvement de l'Église, et cela pour plusieurs raisons. Petit a, nous lisons en Romains 11, verset 25,
« Qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. »
Ensuite, seulement, Israël, plus exactement un résidu croyant, sera sauvé.
Romains 11, verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété.
Cela prouve que le temps d'Israël ne peut commencer qu'après l'enlèvement de l'Église. L'apôtre appelle le rétablissement d'Israël un mystère. Il s'agit certes d'un merveilleux dessein de la grâce de Dieu, longtemps méconnu au sein de la chrétienté. Petit b. Durant la dernière semaine de Daniel, c'est l'évangile du royaume qui sera annoncé, et non plus l'évangile de la grâce tel qu'il est prêché aujourd'hui.
Matthieu 24, verset 14 et Apocalypse 11. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin.
Apocalypse 11 montre clairement la différence fondamentale existant entre ces deux évangiles. Alors que le but de l'évangile de la grâce est d'amener des pécheurs à accepter le salut et de faire d'eux des membres du corps de Christ, l'évangile du royaume sera annoncé en vue de gagner des âmes pour le royaume terrestre de Christ. Les moyens dont se servent les prédicateurs de ces évangiles sont aussi totalement différents. Ceux qui annoncent l'évangile de la grâce doivent être animés de l'esprit même qui caractérise leur message, c'est-à-dire de la grâce illimitée de Dieu, qui n'impute pas aux hommes leurs offenses, mais pardonne gratuitement à tous ceux qui croient en Jésus.
Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Romains 12, verset 14. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Verset 20. Ne rendant pas mal pour mal ou outrage pour outrage, mais au contraire bénissant, parce que vous avez été appelés à ceci, c'est que vous héritiez de la bénédiction. 1 Pierre 3, verset 9.
Tel ne sera pas le caractère des deux témoins de Dieu mentionnés en Apocalypse 11, versets 3 à 6, et qui doivent prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours, et dont il est dit
« Si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient ainsi mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie. Et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. »
On le voit, ce n'est point là le ministère de l'Évangile de la grâce de Dieu confié à l'Église. Il est donc évident que celle-ci doit être retirée auparavant. Sinon, il serait impossible qu'un témoignage semblable à celui d'Apocalypse 11 soit suscité. Quelle confusion se produirait si l'Église était encore ici-bas à ce moment-là et que l'Évangile de la grâce continue à être annoncé, car aussi longtemps que l'Église sera sur la terre, cet Évangile-là sera prêché. Si deux évangiles différents étaient annoncés en même temps de la part de Dieu, auquel des deux les hommes devraient-ils croire? Il est impossible qu'il en soit ainsi. Par conséquent, il est exclu que l'Église soit encore sur la terre à l'époque où sera prêché l'Évangile du royaume. Petit c, en Apocalypse 1, verset 19, le Seigneur dit à l'apôtre Jean,
« Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. »
Les choses que tu as vues sont décrites au chapitre premier. C'est la vision de Jean à Patmos, Christ lui-même, apparaissant revêtu de son pouvoir judiciaire. Les choses qui sont, nous les trouvons dans les chapitres 2 et 3, l'histoire de l'Église chrétienne et le jugement prononcé sur son état par le Fils de l'homme, de l'Église telle que le Seigneur la considère quant à sa responsabilité en tant que témoin de Dieu sur la terre depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de la vraie Église et à la condamnation de la fausse Église, Laodicée, digne seulement d'être vomie de la bouche du Christ. Les choses qui doivent arriver après celles-ci sont les visions décrites à partir du chapitre 4 et s'étendant jusqu'à la fin du livre. Dans les chapitres 4 et 5, nous trouvons tous les croyants réunis dans le ciel à la venue du Seigneur, et, à partir du chapitre 6, commencent les jugements de la fin. La famille céleste est symbolisée désormais par les 24 anciens qui entourent le trône de Dieu et sont en parfaite sécurité dans la maison du Père, tandis que se déroulent les jugements contre les impies restés sur la terre. Dès lors, les rachetés qui sont encore dans le monde portent un caractère qui ne correspond pas à celui de l'Église sous l'économie de la grâce, mais bien à celui des Juifs. En effet, comme cela ressort par l'exemple d'Apocalypse 6:10, leur langage est identique à celui du résidu croyant d'Israël, tel que nous le trouvons souvent dans les psaumes.
Apocalypse 6, verset 10, « Et elle criait à haute voix, disant, « Jusques à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?»
Les 24 anciens, vêtus de vêtements blancs, ayant sur leur tête des couronnes d'or, représentent la foule de ceux qui ont été rachetés de toute tribu, langue, peuple et nation, et qui, de leur demeure céleste, gouverneront la terre. En attendant l'arrivée de ce grand jour, ils chantent dans le ciel un cantique nouveau, à la gloire de l'agneau, disant
« Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu, et langue, et peuple, et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Apocalypse 5, versets 9 et 10.
Durant tout le cours des jugements qui s'abattent sur la terre, ils ne quittent pas le ciel. C'est là une preuve supplémentaire que l'Église sera recueillie auprès du Seigneur avant la période des jugements de la fin. Quatrièmement, enfin, plusieurs passages de la parole déclarent expressément que le Seigneur sera accompagné de ses saints lorsqu'il apparaîtra en gloire pour exécuter ses jugements contre les incrédules. Voir notamment
1 Thessaloniciens 3, verset 13. Pour affermir vos cœurs sans reproche, en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. Colossiens 3, verset 4. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Zacharie 14, verset 5. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsal. Et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra et tous les saints avec toi. Jude 14. Or Hénoc aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé de ceci en disant « Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades. »
C'est donc qu'ils auront été enlevés auparavant auprès de lui. En outre, ainsi que nous le verrons plus loin, ils prendront part aux noces de l'agneau dans le ciel avant de paraître avec lui.
Apocalypse 19, versets 7 à 10. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin éclatant et pur, car le fin lin ce sont les justices des saints. Et il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Et je tombai devant ses pieds pour lui rendre hommage. Et il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. »
Certainement, l'Église sera complète et déjà dans la gloire à ce moment-là, sinon ces noces célestes ne pourraient avoir lieu. Cela implique donc qu'elle a été enlevée auparavant dans le ciel pour être avec son divin époux. Pour elle, il n'est point un juge comme il le sera pour les habitants de la terre, qui auront à subir la colère de l'agneau.
Apocalypse 6, verset 16. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau.
Cette colère désigne précisément les terribles jugements qui seront exécutés sur les méchants, tandis que les rachetés en ont été délivrés.
Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, verset 10 et 5, verset 9.
Du reste, il est frappant de constater qu'aucune des épîtres ne parle en détail de la grande tribulation, ce qui s'explique par le fait que l'Église n'aura point à la traverser. Néanmoins, cela ne signifie nullement que les chrétiens ne soient pas appelés à souffrir sur la terre avant la venue du Seigneur. La parole nous enseigne, en effet,
que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22.
Et que
le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? 1 Pierre 4, verset 17.
Nombreux sont les croyants qui, effectivement, ont déjà souffert au cours des siècles passés, et tout particulièrement ces dernières années, soit qu'ils aient été en butte à des persécutions, soit qu'ils aient subi eux aussi les jugements qui se sont abattus sur divers pays. Cependant, ces épreuves ont lieu dans une période où la grâce est encore en plein exercice, tandis que les jugements qui caractériseront la grande tribulation dépasseront tout ce qui s'est vu précédemment. Le Seigneur l'a annoncé lui-même.
Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais, Matthieu 24, verset 21.
Que le Seigneur soit béni pour l'assurance qu'il nous a donnée, qu'il nous garderait de cette épreuve. Nous pouvons donc nous réjouir sans crainte aucune à la pensée de son prochain retour, mais demeurons vigilants, fermes et actifs à son service, selon l'exhortation que l'apôtre Pierre adressait aux saints à la fin de sa carrière.
C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais.
Car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
vous sera richement donnée. 2 Pierre 1, versets 10 et 11.
Chapitre 5. La manifestation des rachetés devant le tribunal de Christ. Premièrement, une fois recueillis auprès du Seigneur, tous les rachetés, sans exception, devront être manifestés devant le tribunal de Christ.
Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. 2 Corinthiens 5, verset 10.
Cette manifestation aura lieu avant les noces de l'agneau. Il faut que tout ce que nous avons fait soit mis auparavant en pleine lumière devant le tribunal de Christ, en présence de Dieu et de ses saints. Tous nos péchés, tous nos manquements, même les plus secrets, seront dévoilés, mis à nu dans leurs moindres détails devant tous. Et non seulement ce que nous aurons fait sera ainsi manifesté, mais aussi ce que nous aurons été, et l'image qui apparaîtra alors sera peut-être bien différente du masque que nous nous serons donné ici-bas. Cependant, il importe de préciser que nous ne comparaîtrons pas devant ce tribunal comme des inculpés appelés à être jugés, sinon qui pourraient être acquittés. Le Seigneur lui-même a dit
« en vérité, je vous dis, que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, verset 24.
Le croyant n'a donc pas à redouter le jugement éternel devant le tribunal de Christ, où il doit être seulement manifesté. D'ailleurs, il y comparaîtra dans un corps céleste et glorieux, semblable au corps de celui qui sera assis sur le trône et revêtu de toutes ses perfections. Il ne craindra donc aucunement la lumière qui sera faite sur toute sa vie passée. Il saura qu'il a été racheté par le sang précieux de Christ et qu'il ne peut venir en jugement. Par conséquent, le tribunal de Christ n'est pas, pour le croyant, un lieu de jugement comme il le sera plus tard pour les méchants. C'est bien plutôt le lieu où seront manifestés dans tout leur éclat la grâce et l'amour du Seigneur Jésus. En effet, nous ne pouvons nous faire ici-bas qu'une idée bien faible et incomplète de sa sainteté. Nous ne la sonderons entièrement qu'au ciel, où, libérés de toutes les entraves de nos corps mortels et du péché, nous serons rendus capables de louer, de bénir et d'adorer notre bien-aimé Seigneur et Sauveur comme il en est digne. Mais il faudra que nous soyons auparavant manifestés devant son tribunal, afin que nous reconnaissions une fois clairement, dans la lumière de Dieu, ce que nous étions par nous-mêmes et ce qu'étaient en réalité nos actes, nos paroles, nos pensées, tels que le Seigneur les a vus et jugés. Alors seulement nous aurons pleinement conscience de ce qu'est la grâce de Dieu. Ici-bas, nos yeux sont bien souvent obscurcis par Satan et l'esprit du siècle. Que de fois nous considérons, même inconsciemment, les choses spirituelles et nous-mêmes, comme à travers des verres colorés ou déformants, grossissant nos mérites et atténuant notre culpabilité. Aussi sera-t-il nécessaire que nous soyons tous manifestés en pleine lumière, afin que nous prenions enfin conscience de notre néant total. Nous comprendrons alors toute la grandeur et la gloire de la grâce et de l'amour de notre Seigneur. Quelle valeur excessive attachons-nous trop souvent à nos œuvres, à notre amour, à notre foi, à notre fidélité. Tout cela sera remis à sa vraie place et pesé à la balance du sanctuaire. Le bien aura été produit par la grâce, et nous reconnaîtrons que nous n'y avons aucun mérite. Toutefois, le Seigneur le récompensera, ce qui fera éclater sa grâce davantage encore. Bien des actes apparaîtront, à la lumière de ce tribunal, sous un jour entièrement différent de celui où nous les aurons appréciés ici-bas. Songeons en particulier à la manière selon laquelle nous aurons manifesté l'Esprit et les caractères de Christ dans toute notre activité. Deuxièmement, combien est solennelle cette perspective d'être tous manifestés devant le tribunal de Christ, et combien nous devons y songer. Cela nous amènera à nous abstenir de tout ce dont nous aurions à avoir honte dans la présence du Seigneur et de ses saints, et à nous laisser guider en toutes choses par sa parole et son esprit. Mais, nous le répétons, cette attente ne doit aucunement nous effrayer, car notre manifestation servira en premier lieu à glorifier le Seigneur. Nous-mêmes, nous lui rendrons gloire, car nous constaterons alors la grâce merveilleuse qui nous aura conduits, aidés, soutenus, gardés durant la traversée du désert, et nous aura amenés finalement dans la gloire auprès de lui. Ainsi, malgré tous nos manquements, Christ sera glorifié. Tous nos actes seront appréciés selon le jugement de Dieu, non afin que nous soyons condamnés, mais que nous soyons pleinement d'accord avec Dieu. Ainsi, seulement nos cœurs deviendront vraiment libres pour l'adorer et le louer d'une manière parfaite. Puisse la perspective d'avoir à paraître devant ce tribunal maintenir dans nos cœurs à tous la crainte de déshonorer le Seigneur et le désir de le servir fidèlement ici-bas, tout en nous réjouissant de ce que sa grâce nous amènera sûrement dans la maison du Père.
Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens 1, versets 9 et 10.
Chapitre 6. Les saints dans le ciel et les noces de l'agneau. Premièrement, nous allons considérer maintenant ce que la parole de Dieu nous révèle concernant le séjour et l'activité des saints après leur introduction dans le sanctuaire céleste et jusqu'à l'apparition de Christ en gloire. Les saints dans le ciel sont représentés à partir du chapitre 4e de l'Apocalypse, par 24 anciens assis sur des trônes, entourant le trône de Dieu, vêtus de vêtements blancs et portant des couronnes d'or. Ce sont des personnages symboliques qui représentent tous les saints depuis le premier racheté jusqu'à la dernière âme sauvée avant l'enlèvement de l'Église. Quelle est donc leur activité dans le ciel ? Ils sont rois, ainsi que le montrent les trônes et les couronnes, et, comme tels, destinés à régner sur la terre avec Christ. D'autre part, ils sont sacrificateurs, ainsi que l'indique leur chant.
Et ils chantent un cantique nouveau disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu. » Par ton sang, de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, versets 9 et 10.
Déjà, dans 1 Pierre 2, verset 5, les rachetés sont appelés
une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Et au verset 9,
« Vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis.
Cette dignité de rois et de sacrificateurs que les saints possèdent déjà ici-bas continuera à être leur part glorieuse dans le ciel. Deuxièmement, mais pourquoi sont-ils appelés anciens et sont-ils au nombre de 24? Le terme d'ancien fait ressortir le fait qu'ils possèdent la révélation des mystères de Dieu. Nous les voyons même renseigner l'apôtre Jean sur certains points des visions auxquelles il assiste.
Apocalypse, chapitre 5, verset 5 et 7, verset 13. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et Apocalypse 7, verset 13. Et l'un des anciens répondit me disant, « Ceux-ci qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?»
Ils s'intéressent à l'action qui se déroule sous leurs yeux, aussi bien au ciel que sur la terre, prennent une part intense aux souffrances du pieux résidu d'Israël traversant la grande tribulation sous le règne de l'Antichrist et le soutiennent dans ses prières. Chapitre 5, verset 8.
Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre animaux et les 24 anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints.
Enfin, ils chantent et adorent, prosternés devant le trône de Dieu.
Chapitre 4, versets 10 et 11. Les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône, et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Apocalypse 7, versets 11 et 12. Et tous les anges se tenaient à l'entour du trône et des anciens et des quatre animaux, et ils tombèrent sur leurs faces devant le trône et rendirent hommage à Dieu, disant « Amen ». La bénédiction et la gloire et la sagesse et l'action de grâce et l'honneur et la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 19, verset 4. Et les 24 anciens et les quatre animaux tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur le trône disant Amen, Alléluia.
Ayant oublié les luttes et les épreuves rencontrées durant leur pèlerinage terrestre, ils n'ont plus devant eux que la gloire céleste et la félicité éternelle. La gloire de l'agneau remplit leur cœur comme elle illumine le ciel tout entier. Leur nombre est également symbolique. D'une part, ils rappellent les 24 classes de la sacrificature terrestre instituées par le roi David.
1 Chronique 24, verset 19. Ce fut là leur distribution pour leur service pour entrer dans la maison de l'Éternel selon leur ordonnance, donnée par Aaron leur père, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, le lui avait commandé.
D'autre part, il fait ressortir que les saints glorifiés se composent de deux groupes, 2 × 12, savoir les croyants de l'Ancien Testament, allant d'Adam à Jean-Baptiste, et les croyants formant l'Église. Bien que ces deux groupes jouissent de la même part glorieuse, ils n'en sont pas moins distincts. Cela apparaît clairement au chapitre 19, où, à partir du verset 6, les anciens ne sont plus mentionnés, mais où les noces de l'agneau sont décrites. Nous trouvons alors pour la première fois la mention de l'épouse de l'agneau, et, d'autre part, des conviés au banquet des noces de l'agneau.
Voir Jean 3, verset 29. Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et l'entend est tout réjoui à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc qui est la mienne est accomplie.
Cette épouse comprend l'ensemble des rachetés de l'ère chrétienne de la grâce, tandis que les conviés sont tous les autres rachetés. Ils sont déclarés bienheureux parce qu'ils se réjouissent, comme membres de la famille céleste, du lot glorieux qui est échu à l'épouse de l'agneau. Troisièmement, nous trouvons déjà dans les évangiles quelques passages qui font allusion à cet événement solennel. C'est ainsi qu'en Luc 22, verset 30, le Seigneur Jésus promet à ses disciples qu'ils mangeront et boiront à sa table dans son royaume.
Luc 22, verset 30, « Afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. »
Au chapitre 12, verset 37, il dit qu'il se scindra et les fera mettre à table, et s'avançant, il les servira.
Luc 12, verset 37, « Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillants. En vérité, je vous dis qu'il se scindra et les fera mettre à table, et s'avançant, il les servira. »
Et en Jean 17, verset 24, il veut qu'il voie sa gloire.
Jean 17, verset 24, « Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. »
Tous ces passages font ressortir le désir du Seigneur d'associer les siens à sa gloire dans le ciel et de les introduire dans la jouissance de ses affections les plus intimes. C'est ce qu'expriment les noces de l'agneau qui précèdent immédiatement l'entrée du Seigneur dans son règne.
Et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre disant « Alléluia !» Car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur, car le fin lin ce sont les justices des saints. Et il me dit, écrit, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau, Apocalypse 19, versets 6 à 9.
L'épouse s'est préparée avant les noces, et cette préparation a lieu sur la terre où s'accomplissent les justices ou actes justes des saints. Il ne s'agit pas ici de la justice de Christ qui est imputée à chaque croyant par la foi, 1 Corinthiens 1, verset 30 et Romains 5, 18, mais bien du résultat de la conduite de chaque racheté ici-bas.
1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, « Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu et justice et sainteté et rédemption. » Romains 5, verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule faute, les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi, par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. »
L'ensemble de ces justices constitue le vêtement de fin lin éclatant et pur, dans lequel l'épouse apparaîtra aux yeux de l'époux le jour de ses noces, puis aux yeux du monde lors de la venue du Seigneur en gloire. La manifestation de ces actes justes, fruits de l'esprit agissant dans chaque croyant, a ici un caractère collectif. Ils sont vus dans leur ensemble comme appartenant à l'Église elle-même et non plus à chaque racheté individuellement. Songeons-nous à ce côté de notre service pour le Seigneur. Aurons-nous contribué à tisser cette robe somptueuse, ou bien abandonnerons-nous ce soin à d'autres? Sans doute, c'est devant le tribunal de Christ, donc avant les noces de l'agneau, que sera manifesté ce que vaudront les fils que nous aurons tissés, c'est-à-dire les actes que nous aurons accomplis ici-bas, ainsi que nous l'avons exposé dans le chapitre précédent. Par conséquent, notre joie, lors des noces de l'agneau, sera absolument parfaite et sans nuage. Cependant, il nous convient de ne pas perdre de vue ce que signifie pratiquement cette préparation et de nous appliquer avec zèle à tisser ici-bas de nombreux fils de ce vêtement de fin lin. Mais n'oublions pas non plus que ce ne sont pas nos œuvres qui nous vaudront de nous asseoir à la table des noces, mais bien la seule grâce du Seigneur. Cette grâce ressort d'ailleurs des termes mêmes dont l'Écriture se sert. Il lui a été donné d'être vêtu. Ce vêtement est donc un don de la pure grâce de Dieu, qui se plaît à reconnaître ce qui, sous l'action de l'Esprit, a été produit pour la gloire de Christ. Remarquons encore que ces noces sont celles de l'agneau, titre qui rappelle à l'épouse que son Seigneur a souffert et a été immolé pour elle. Cette pensée sera donc bien propre à éveiller dans son cœur la louange, la reconnaissance, l'adoration. La joie aussi remplira le ciel, et les saints l'expriment en s'écriant
« Réjouissons-nous et tressaillons de joie ».
En effet, le moment tant attendu sera arrivé, où Christ s'unira mystiquement à cette épouse pour laquelle il a donné sa vie. À la joie de son cœur répondra, tel un écho puissant, la joie du ciel tout entier qui fera entendre une clameur semblable à une voix de grandes eaux et de fort tonnerre. Cette allégresse procédera aussi du fait que, sitôt après ses noces, l'agneau apparaîtra avec son épouse dans sa gloire et sa puissance comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Les versets suivants décrivent, en effet, une scène solennelle entre toutes. Le ciel s'ouvre, et Christ lui-même, montant un cheval blanc, s'avance pour revendiquer ses droits à la face du monde, juger la terre et établir son règne glorieux.
Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur, verset 14.
Ces armées sont composées des saints glorifiés et non des anges. Cet acte solennel clôt la période allant de l'enlèvement de l'Église à l'apparition glorieuse de Christ. Plus de nuit, plus de distance, ton épouse à ton côté reflétera ta puissance et ta grâce et ta beauté. Fruit de ton amour suprême, on la verra dans ce jour, environnée elle-même de ton éternel amour.